identified myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
Right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Au cœur de Chamier, dans ce qui fut une école communale, il y a un endroit où, comme aux Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose. Si l'on est assuré d'y trouver une aide et un soutien, le Centre Social Saint-Exupéry n'est pas une institution charitable. C'est un lieu où l'on aide les gens de tous âges et de toutes origines à se tenir ou à se remettre debout pour affronter leur existence. À la mesure des difficultés de notre temps, c'est devenu au fil des ans un point focal, un rouage essentiel de la vie de la commune de Coulounieix-Chamier et qui a l'ambition d'apprendre, de créer du lien et d'aider à s'intégrer pour devenir solidaire et citoyen. Au service de cette noble mission, pendant des journées dont il déplore qu'elle n'ait que 24 heures, un homme qui impressionne autant par son physique rugueux que par la conviction de son propos quand il évoque son travail exaltant, et c'est Nils Fouchier qui va parler de son métier à Radio Libre en Périgord, et je l'en remercie. Nils Fouchier, bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement dire à nos auditeurs de Tranche de Vie comment on devient directeur d'un centre comme le Centre Social Saint-Exupéry ?
Bonjour déjà. Devenir directeur d'un centre social, ça peut se faire si on est sur un plan de carrière, mais ça peut aussi se faire de façon naturelle en démarrant dans l'animation, jeune animateur sur un certain nombre d'activités, et puis ensuite on monte lentement en responsabilité en devenant référent, coordinateur, et petit à petit on se confronte à des logiques d'appel à projet, et puis on commence à maîtriser un peu plus le budget, et puis on commence à gérer une équipe. Et puis au bout d'un moment, on finit par répondre à des appels à projets et à gérer les subventions. Et on devient responsable de secteur. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on trouve l'habit un peu trop petit. Et souvent, on quitte le centre social qui nous a permis de grandir professionnellement comme ça. Et on postule un poste de direction quand on voit qu'il y a des offres. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Ensuite, la question du diplôme, elle est un peu plus particulière. Il n'y a pas, comme dans l'action sociale, des diplômes comme le CAFDES, des diplômes qui sont imposés, mais souvent, il faut un peu de bouteille, un peu d'expérience dans l'animation, et on ne prend pas en dessous d'un DUT animation. Moi, ce qui est dans mon cas, c'est autre chose, puisque j'ai un double master, et je suis en train, en ce moment, d'en faire un cinquième agrémenté d'un autre diplôme, qui est le diplôme d'état d'ingénierie sociale. Mais oui, il faut des directeurs diplômés, parce qu'il faut des directeurs qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir piloter un projet, piloter un partenariat et manager des équipes.
Donc, si je vous suis bien, dès le départ, il faut quand même s'engager dans une filière qui est celle du travail social et s'y tenir ensuite de la manière la plus convaincue.
Oui, alors après je vais pouvoir peut-être parler que de moi. Juste un petit aparté, attention, vous parlez de travail social, le centre social c'est pas du travail social, le centre social c'est de l'éducation populaire, donc c'est les métiers de l'animation. Ce sont pas les travailleurs sociaux, ce sont des animateurs de projet. Alors attention, on n'est pas dans les animateurs de pâte à sel, on est dans de l'animation de projet avec la mobilisation d'un certain nombre de partenaires, la mobilisation des habitants autour de projets. Voilà. Ensuite, moi, mes convictions personnelles, je les partage avec les valeurs des centres sociaux. Donc pour moi, c'est aussi naturel de faire ce métier.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un réseau de centres sociaux en France qui poursuivent à peu près, tous le même objectif.
Alors, ça, c'est plus particulier. Déjà, les centres sociaux, c'est un courant, un mouvement d'éducation populaire, le centre social. C'est un mouvement d'éducation populaire qui est né fin du 19e siècle en Angleterre et qui a traversé la Manche, ce qui explique pourquoi le nord de la France est beaucoup mieux doté en centres sociaux. Pour vous donner un exemple, il y a, je crois, plus de 150 centres sociaux dans le département du Nord. Vous en avez 11 en Dordogne, 33, je crois, ou 34 en Gironde. Mais par contre, les centres sociaux sont fortement développés, notamment sur la région parisienne, et ont suivi la vallée du Rhône, puisque Lyon, Marseille, voilà, ce sont ce qui explique aussi pourquoi les centres sociaux ont une image un peu urbaine, alors qu'en milieu rural ou dans les départements ruraux comme la Dordogne, on se dit pourquoi il y a des centres sociaux. Pourtant, il y en a qui sont intercommunaux en milieu rural et ça marche bien. Pourquoi ça marche bien ? Parce que le mouvement est parti uniquement sur une base qui est que c'est la maison des habitants. Et en fait, centre social, ça ne veut pas dire un centre qui fait du social, comme pourrait être un centre communal d'action sociale ou un centre médico-social. Un centre social, ça veut dire tout simplement un carrefour sociétal. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre où les habitants peuvent se retrouver et discuter ensemble, soit des problèmes, soit des projets qu'ils ont envie de faire ensemble pour mieux vivre au quotidien sur son territoire.
Alors vous avez évoqué de très nombreux problèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous organisez le travail de votre équipe, comment cette équipe est constituée, comment fonctionne administrativement un centre social ?
Alors, on va partir des généralités. Les centres sociaux peuvent être associatifs, mais ils peuvent être aussi municipaux. Ils peuvent être aussi pilotés par des CCAS. C'est pas forcément là que la différence se fait. Un centre social, à partir du moment où il y a l'espace de parole pour les habitants, il y a l'espace de parole pour, on va dire, les adhérents, l'espace de parole pour les bénévoles. À partir de ce moment-là, on a toute cette possibilité de faire avancer, de faire progresser la participation des personnes dans les projets. C'est comme ça que naissent de nouveaux projets, et c'est comme ça que naissent de nouvelles opportunités, de nouvelles pistes de développement. Ensuite, le centre social, il y a aussi une réalité financière à un moment donné. Plus on augmente, plus on amène du professionnel et du salaire, à un moment donné, le centre social rentre aussi dans une espèce de prison, on va dire, allez, peut-être ce que dans le jargon de l'ingénierie sociale, ce qu'on peut appeler la dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on est dans un sentier et on en devient dépendant parce qu'il faut fonctionner pour pouvoir financer le fonctionnement du centre social. Cette dépendance au sentier, notamment souvent liée à la masse salariale qu'il faut financer, amène souvent certaines associations, certaines structures, et c'est là qu'il faut, en tant que directeur, être vigilant à ne pas perdre de vue la possibilité de pouvoir faire rentrer des nouveaux projets et des nouveaux bénévoles. Mais souvent, on devient prestataire de services à la demande de l'État, à la demande du conseil départemental ou à la demande de la mairie. Nous, ce n'est pas notre cas, en grande partie, mais il y a des centres sociaux qui pilotent les centres de loisirs, des centres sociaux qui pilotent les crèches, voilà. Où là, il y a des financements qui tombent parce qu'on est dans de la délégation de services publics. Voilà, au bout d'un moment, on peut avoir l'impression d'être dans des centres sociaux qui sont des usines. Ici, le centre social de Saint-Exupéry, c'est une équipe de 21 personnes. On est à peine au-dessus de l'ISOTP.
Vous parlez de permanents ou de salariés ?
Oui, je vous parle de salariés. Oui. Après, on a 106 bénévoles qui viennent toutes les semaines. Et sur ces 106 bénévoles, on a 45 bénévoles qui sont responsables d'activités. Voilà.
Donc, ce que vous venez d'évoquer aussi nous a rapproché des contraintes budgétaires. Comment, de ce point de vue-là, fonctionnez-vous ? Alors, j'imagine que administrativement, vous avez un conseil d'administration. Et où trouvez-vous vos ressources ?
Alors, oui, le Centre social Saint-Exupéry étant une association, il y a un conseil d'administration. Nos ressources sont des ressources. Alors, ce n'est que de la subvention. Donc, chaque année, il faut aller chercher les subventions pour financer notre fonctionnement. La seule chose que nous pouvons avoir, ce qui n'est pas non plus la panacée, on est à peu près sur un budget qui avoisine les 900 000 euros, vous avez 60 000 euros de la CAF qui, elle, verse cette subvention tous les ans dans le cadre d'une prestation de service, dans le cadre d'un agrément qui nous est donné pendant 4 ans. Tout le reste, c'est de la subvention qu'on va chercher tous les ans. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas comment je vais payer mon salaire à partir du mois de janvier.
Donc c'est un travail constant et qui est à reprendre chaque année, même si vous pouvez, j'imagine, compter quand même sur la fidélité de certains de vos donateurs.
Alors, la fidélité des donateurs, elle passe uniquement parce qu'on répond à des appels à projets et qu'on les sert dans un certain nombre de politiques publiques. Le conseil départemental nous finance parce qu'on fait du bon travail dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Ils ne nous financent pas parce qu'ils nous aiment bien. Voilà, alors tous les ans, on doit être dans l'évaluation et tous les ans, on doit montrer qu'on a bien travaillé.
Donc, ce qui veut dire des rapports, des bilans, du travail. Donc, je comprends de mieux en mieux pourquoi vous manquez de temps. Est-ce que maintenant, on va peut-être quitter ces aspects qui sont le quotidien de votre travail, mais qui sont probablement les moins agréables, pour ne pas dire les plus désagréables, pour passer un petit peu à l'évocation de vos activités, à l'évocation concrète de vos activités. Je sais, mais peut-être que je suis en retard, que ces activités elles s'organisent autour à peu près de 10 actions ou de 10 pôles, mais peut-être qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins maintenant. Est-ce que vous pouvez nous confirmer et évoquer un petit peu ce que vous faites ?
Alors non, vous êtes bien informé, il y a bien 10 pôles d'activité. Alors on va peut-être dire 9, mais 10 aussi, enfin si on peut dire 10. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une liste à la Prévert, que je vous les évoque tous, parce que tous en plus ont un certain nombre d'activités supplémentaires en plus à l'intérieur. Enfin, ça peut prendre un peu de temps, je peux vous égrener le centre social. Mais...
Non, il s'agit pas de ça, il s'agit de dire à nos auditeurs ce qui vous paraît le plus essentiel pour répondre à votre mission d'intégration, de solidarité, de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire d'association de toute la population d'une partie de commune comme Chamier au courant normal de la vie d'une commune.
Bien. Vaste sujet. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un centre social, c'est avant tout une structure de proximité, et en plus d'être une structure de proximité, avec une logique d'accueil. Donc une logique d'accueil permanent des habitants. Et donc à partir de là, on développe. Donc ça veut dire qu'on vise une mixité sociale, ça veut dire qu'on vise une mixité intergénérationnelle, et ça veut dire aussi qu'on vise une mixité culturelle. Et surtout qu'à Coulouny-Chamier, il y a une mixité culturelle. Et ça, si à ce moment-là on n'atteint pas cet objectif-là, c'est que quelque part on n'a pas une vocation universelle ou universaliste, comme on pourrait le dire. Et sur cette réalité-là, le centre social pour le moment fonctionne relativement bien. Donc ça, ce sont des indicateurs qui montrent si un centre social est quand même dans les clous, et c'est un peu le cas. Donc je suis assez rassuré. Quand on fait une étude géographique des adhérents, on est réparti sur toute la commune, et donc on n'est pas que concentré sur le quartier politique de la ville, prioritaire, dans lequel nous nous trouvons, ce qui montre bien que dans nos activités, on a de la mixité sociale. Alors après, elle est relative en fonction d'un certain nombre d'activités. Il est évident que si vous prenez l'atelier de lutte contre l'illettrisme, le pôle Plume, hein, qui accueille plus de 250 personnes tous les ans, on n'a quand même pas une mixité sociale énorme. Par contre, les adhérents qui viennent à l'atelier Plume sont des adhérents qu'on retrouve dans les autres activités et qui pratiquent le français dans des activités de loisirs, comme des sorties familiales, des sorties culturelles ou les autres activités, que ce soit l'atelier cuisine, soit l'atelier art floral, que ce soit l'atelier informatique, voilà. Et là, on pratique le français autrement. Et ce qui est très intéressant, notamment, c'est qu'on arrive à créer d'autres solidarités. Par exemple, des solidarités de voisinage, des gens qui se sont connus au centre social et qui maintenant peuvent s'inviter le soir. Et là, on voit qu'on a de la plus-value. Et c'est là où on voit que quelque part, on a un rôle dans cette question du mieux vivre ensemble, qui est importante. Alors, il y a le mieux vivre ensemble et il y a le faire ensemble. Donc, il faut les nuancer peut-être, mais voilà. Le centre social, il est là-dedans. Donc après, je vous énumère un certain nombre de valeurs. Après, on répond aussi à d'autres questions. C'est vrai qu'on a de plus en plus une tendance à déborder de notre territoire, qui est le territoire de la commune, puisque l'agrément centre social donné par la CAF est un agrément municipal, enfin communal, hein. Donc c'est bien Coulouny-Chamier, et pourtant on a des activités comme le pôle Plume, comme le pôle Insertion, comme le pôle Gens du Voyage, qui sont des activités qui maintenant rayonnent à l'échelle de l'agglomération de Périgueux et de l'unité territoriale de Périgueux. Voilà, donc ça, c'est des choses qui amènent le centre social à être de plus en plus en dehors de ses frontières, avec une reconnaissance.
Est-ce que la mise en place du Grand Périgueux va pouvoir servir cet élargissement de votre rayon d'action ?
Alors, Grand Périgueux, c'est l'agglomération, c'est une collectivité territoriale qui est très jeune, hein, et qui est en train de construire ses projets. Et dans ces projets, est en train de voir aussi les compétences qu'ils vont prendre. Donc là, on a actuellement la compétence sociale ou la compétence centre social n'est pas prise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Grand Périgueux sera un vecteur de développement du centre social. Après, le Grand Périgueux est un partenaire très important, un nouveau partenaire d'ailleurs, mais de plus en plus important tous les ans au niveau du centre social, parce qu'on est dans le cadre de la politique de la ville.
Comme je sais que votre temps est précieux, on va peut-être passer maintenant à l'évocation des problèmes et des perspectives et de ce qui vous tient à cœur et qui pourrait mieux marcher et qui ne marche pas complètement à votre gré. Et puis, évidemment, des projets que vous pouvez avoir.
Je vous remercie de cette tribune parce que, je l'ai déjà dit, ils le savent, mais là, on est... Actuellement, le centre social est en souffrance en ce qui concerne ses locaux. Ça fait plusieurs années qu'on tire la sirène d'alarme. La mairie l'a entendu, puisqu'elle l'a quand même présenté dans le contrat de ville. Le maire l'avait quand même annoncé, même dans son programme avant les élections municipales. Il faut donner au centre social la possibilité d'avoir des nouveaux locaux. Moi, je suis quand même relativement inquiet, et je vous le dis vraiment, hein, et c'est pas inquiet juste pour embêter les élus. Je suis très inquiet même pour l'année 2016 en ce qui concerne les locaux de l'espace Jules Verne pour le fonctionnement du centre social. On est vraiment très à l'étroit. On est dans les limites même, je pense. Heureusement qu'on a des salariés qui sont militants, qui ont envie aussi et qui acceptent de travailler parfois dans des conditions un peu plus compliquées que prévues. Mais on est quand même dans les limites de la loi par rapport à l'accueil de nos professionnels, et aussi on est véritablement maintenant limité dans l'accueil des activités. On a un certain nombre d'activités qui sont soit ne vont pas pouvoir être faites, soit ne vont pas pouvoir être développées. À partir de 2016, on est déjà dans cette difficulté-là. Là, ça va être un gros problème parce qu'on nous annonce des nouveaux locaux, mais dans 5 ans. 5 ans, c'est énorme dans la vie d'une association, c'est énorme dans le quotidien d'un territoire. Et là on peut plus.
N'importe quel profane, et j'en fais partie, se rend compte que vous êtes à l'étroit. Je veux dire, toutes les fois que je passe ici au centre social Saint-Exupéry, je constate que l'accueil est plein, que les gens sont un petit peu partout. Ils sont dans la cour quand il y a un interclasse ou une interruption, mais on voit que la fréquentation de vos locaux est constante, et puis on voit certains signes qui ne trompent pas, comme la mise en place de préfabriqués dans votre cour, que le corset est en train de craquer. Est-ce que, malgré tout, vous avez des perspectives d'expansion ou de diversification encore, si besoin était, de vos activités ?
Oui, il y a d'autres projets. Il y a d'abord des activités actuelles qui sont en développement. Est-ce qu'on sera en mesure de les développer ? D'autant plus qu'on a des attentes de certains partenaires financiers qui sont prêts à apporter en plus, je dirais, un surcroît de soutien financier par rapport à des besoins. Je pense notamment à l'atelier Plume, par exemple. Actuellement, on a accueilli là pour le moment dans les statistiques, juste pour vous donner cet exemple-là. On était à 113 personnes accueillies sur l'année. Il y a 7 ans, on est à 252 personnes accueillies cette année. On est passé de 9000 heures, grosso modo, je vous les arrondis, 9000 heures de cours en 2008-2009. On est maintenant, alors que je vous parle, on est à 28000 heures.
C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nombre de nationalités qui fréquente l'atelier Plume, que j'ai interviewé il y a quelque temps, mais je ne me souviens plus du chiffre, mais là aussi c'est un chiffre impressionnant.
Alors sur le dernier bilan statistique qui date de fin juin 2015, on était à 42 nationalités.
Alors, s'il fallait un autre chiffre pour souligner le fait que le Centre social Saint-Exupéry est un lieu de rencontre, est un lieu d'intégration, eh bien je pense que celui-ci suffirait. Et maintenant, il me reste à vous poser quand même une question importante, c'est est-ce que vous êtes un homme heureux de faire le métier que vous faites ? Est-ce que vous avez des joies, vraiment, qui compensent toute la peine que vous vous donnez et tout le travail que vous abattez ?
Alors, Tout à l'heure, je l'ai un peu abordé rapidement. La première, c'est que je prends vraiment plaisir à faire ce métier parce que, encore une fois, je vous le dis, je suis en accord avec les, avec, en tout cas, mes valeurs personnelles sont en accord avec les valeurs des centres sociaux. Je m'y retrouve complètement. J'ai pas l'impression de faire du hors-sujet dans ma vie. Ce qui aussi aide au fait de ne pas compter forcément son temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est oui, je suis bien dans mon travail parce que j'ai une équipe, j'ai un environnement professionnel quotidien qui est agréable, qui est, ça se passe bien, les collègues s'entendent bien, l'ambiance est sereine, même si parfois il y a des coups durs, mais bon, voilà, ça c'est la réalité. Après, comme je le dis, on n'est pas là, on ne travaille pas pour être aimé, on travaille pour faire son boulot. Ça c'est un premier point, mais en même temps on a quand même réussi à avoir une ambiance au sein de l'équipe qui est bien. Moi je trouve chouette quand un salarié s'en va et qu'on lui dit bonnes vacances et que je vois que les autres lui disent bonnes vacances ou bon week-end. Bon, je sais que dans d'autres situations professionnelles ça se passe pas forcément comme ça, donc ça c'est déjà pour moi des indicateurs de bonne santé. Ensuite je trouve quand même que je suis entouré d'une équipe assez militante. Je parle des professionnels, hein, parce que les bénévoles, le bénévolat étant lui-même déjà de la militance pour moi, j'ai une équipe de bénévoles autour de moi qui est vraiment aussi, qui est vraiment très 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 prégnante, et puis avec qui je m'entends très bien aussi pour travailler. Voilà, et après, regardez quand même, ça marche relativement bien. Donc je gère pas la crise, j'ai pas à gérer pour le moment, encore une fois, je touche du bois, j'ai pas eu à gérer des licenciements, j'ai pas eu à gérer des moments difficiles. Je suis plutôt en train de développer, le centre social est plutôt en train de se développer, j'accompagne ce développement. On est plutôt quand même dans une dynamique positive, donc pour le moment, c'est quand même relativement agréable comme travail.
Malgré la difficulté du temps. Mais j'imagine que de la part de vos clients, j'aime pas employer ce terme-là, mais enfin, de gens qui viennent ici chercher quelque chose, j'imagine que vous avez aussi des recours qui doivent être quand même réconfortants de temps en temps.
Oui, bah, on voit, c'est aussi intéressant de voir l'évolution des personnes qui viennent au centre social. On les voit progresser, on les voit être mieux dans leur quotidien. Mais encore une fois, même si on a toujours un regard particulier vers ceux qui sont en difficulté, on est quand même, je le rappelle, dans notre mission, c'est d'accueillir tout le monde. Et moi, je vois la progression d'autres personnes qui sont bien, hein, qui ne sont pas en précarité, mais qui sont des bénévoles. Et je trouve que ça progresse. Je trouve ça, voilà. Alors après, c'est vrai qu'il faut on a des instances de régulation, on a des instances pour parler, on a des réunions. Les bénévoles ne sont pas que des bénévoles d'activité. Ce sont des bénévoles qui participent à la réflexion, à l'analyse, à l'évaluation, à la stratégie des actions, des activités. Donc voilà, ça c'est aussi important, hein. C'est aussi important de les considérer comme étant les membres d'une équipe. Moi, quand je fais des réunions d'équipe, alors je ne parle pas de la réunion d'équipe salariée, mais quand je fais une réunion d'équipe plume, quand on fait une réunion d'équipe autre, les bénévoles sont autour de la table comme les autres. Voilà. Donc ça c'est important, et moi je vois l'évolution quand même des personnes, et ça, je trouve quand même que quelque part, on voit les gens qui progressent. Ouais, ouais. Ça aussi c'est une satisfaction. Ouais.
Nils Fouchier, est-ce que votre travail vous laisse le temps d'avoir quand même d'autres passions que ce métier magnifique que vous exercez? Est-ce que vous pouvez faire autre chose? Est-ce que vous avez des choses qui vous attirent? Dites-nous un petit peu, parlez-nous un peu de vos passions si vous en avez.
Alors, est-ce que j'ai le temps de... Alors, avec plaisir, je vous parle de mes passions, mais est-ce que j'ai le temps de les faire? Pas beaucoup. Alors, en ce moment, encore moins. Parce que j'ai repris des études qui me prennent quand même, on le dit en théorie sur le calendrier, une semaine par mois, mais les études me demandent de travailler, donc je travaille le soir, je travaille les week-ends.
Ça fait partie des passions.
Mais ça fait partie des passions, voilà, on peut dire ça. Donc voilà, se réinterroger dans ses pratiques, aller chercher des outils universitaires tous les 10 ans, c'est un peu ma maladie. Voilà, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Tous les 10 ans, je repars faire un master ou un autre diplôme à l'université. Donc ça me prend en ce moment beaucoup de temps. Ça va s'arrêter en décembre 2016. Et après, ben, je repartirai sur le fonctionnement du centre social en pouvant éventuellement retrouver un peu de temps personnel. Actuellement, ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Après, mes passions, dans une ancienne vie, j'ai fait un DEA de géographie physique appliquée, passionné de géomorphologie et de géologie. J'ai failli faire une thèse que je n'ai pas menée au bout parce qu'il fallait manger, parce qu'il fallait travailler. Et ça n'a rien à voir avec les centres sociaux, c'était la dynamique éolienne au milieu du nerf, c'est-à-dire le rôle du vent sur, sur l'aménagement du littoral du nerf. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai fabriqué des pièges à sable et j'allais pendant les tempêtes avec mon anémomètre mesurer et récupérer le sable. Voilà. La géomorphologie m'a toujours passionné, et puis ensuite l'histoire. L'histoire, ça par contre, je continue à lire, je continue à travailler, et je m'amuse en théorie dans mes temps perdus. Alors en ce moment, beaucoup moins, parce que j'ai moins de temps, mais je m'amuse à faire des cours, pour le moment, pour moi. Mais je fais des cours d'histoire, je prépare des cours.
Histoire moderne, contemporaine, alors, histoire
plus
ancienne.
Plus contemporaine, je sais plus entre de la Révolution française à nos jours. Voilà. Mais après, de l'unification allemande, l'unification italienne, la montée du nazisme, voilà, la Commune de Paris, voilà, tout me passionne sur cette partie-là. Alors après, maintenant, j'ai tendance à vouloir repartir sur l'histoire de Rome. Là, en ce moment, je suis plutôt en train de repartir sur l'histoire de la Rome antique. Je trouve ça intéressant aussi, mais enfin bon.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, je vous avais dit que Nils Souchier était un homme impressionnant. Je pense que vous avez pu en juger. Il nous reste à le remercier et à lui souhaiter de continuer à s'épanouir dans son travail et également dans ses passions qu'il arrive à pratiquer tant bien que mal. Merci beaucoup, Nils Souchier.
Merci à vous.
C'était Tranche de Vie, une émission proposée par Jean-François.